Tout à fait. Ainsi, ce doit être celui qui, avec le caractère le plus tyrannique qu'on puisse avoir, sera encore revêtu de l'autorité souveraine. Et plus il aura vécu de temps dans l'exercice de la tyrannie, plus il sera méchant. C'est une conséquence nécessaire, dit Glaucon, prenant à son tour la parole. Mais s'il est évidemment le plus méchant des hommes, continuai-je, n'en est-il pas évidemment aussi le plus malheureux? Et ne sera-t-il pas en réalité d'autant plus longtemps et d'autant plus profondément méchant et malheureux que sa tyrannie sera plus longue et plus absolue? Après cela, permis à la multitude d'avoir à cet égard des opinions aussi nombreuses qu'elle-même. Oui, Socrate, il n'en saurait être autrement. Peut-on supposer que la ressemblance ne soit pas exacte de l'homme tyrannisé intérieurement avec l'État tyrannique, comme de l'homme moralement démocratique avec l'État analogue, et ainsi des autres? Eh bien, et par conséquent, ce qu'un État est par rapport à un autre État, soit pour la vertu, soit pour le bonheur, un homme l'est par rapport à un autre homme. Sans contredit, Socrate. Mais dis-moi, quel est le rapport d'un État gouverné par un tyran à l'État gouverné par un roi, et tel que nous l'avons décrit d'abord? Ce sont exactement les deux contraires. L'un est le meilleur, l'autre le pire. Je ne te demanderai pas lequel des deux est le meilleur et le pire, cela est évident. Mais je te demande si tu juges que celui qui est le meilleur est aussi le plus heureux, et celui qui est le plus mauvais, le plus malheureux. N'allons pas nous laisser éblouir en considérant le tyran seul, qui, après tout, n'est qu'un individu, et le petit nombre de favoris qui l'environnent. Entrons dans l'État. Examinons-le tout entier. Pénétrons et regardons partout. Et prononçons ensuite sur ce que nous aurons vu. Oui, Socrate, tu ne demandes rien que de juste. Il est évident pour tout le monde qu'il n'est point d'État plus malheureux que celui qui obéit à un tyran, ni de plus heureux que celui qui est gouverné par un roi. Aurais-je tort de demander les mêmes précautions pour l'examen des individus, de n'accorder le droit de prononcer sur leur compte qu'à celui qui peut pénétrer par la pensée dans l'intérieur de l'homme, qui, ne s'arrêtant pas comme un enfant aux apparences, n'est point ébloui de ces dehors fastueux dont le pouvoir tyrannique se revêt pour en imposer à la multitude, mais qui sait voir clair à travers tout cela. Si donc je prétendais que nous devons tous écouter ici celui qui d'abord serait un juge éclairé, et qui de plus aurait vécu sous le même toit avec des tyrans, qui les aurait vus dans leur intérieur, avec leurs familiers, dépouillés de leur pompe de théâtre, ou bien encore dans les moments de crise politique. Si j'engageais l'homme instruit par cette expérience à prononcer sur le bonheur ou le malheur de la condition du tyran comparé à celle des autres. Tu ne saurais mieux faire, Socrate. Veux-tu alors que nous supposions pour un moment que nous sommes nous-mêmes en état de juger et que nous avons eu commerce avec des tyrans, afin que nous ayons quelqu'un qui réponde à nos interrogations? Je le veux bien. Suis-moi donc et juge. Rappelle-toi la ressemblance qui existe entre l'État et l'individu, et, les considérant l'un après l'autre, dis-moi quelle doit être leur situation à tous deux. Voyons. Pour commencer par l'État, diras-tu d'un État soumis à un tyran qu'il est libre ou esclave? Je dis qu'il est esclave autant qu'on peut l'être. Tu vois cependant dans cet État des gens maîtres de quelque chose et libres dans leurs actions. J'en vois, mais en très petit nombre. Et, à dire vrai, la plus grande et la plus honorable partie des citoyens est réduite à un dur et honteux esclavage. Si donc il en est de l'individu comme de l'État, n'est-ce pas une nécessité qu'il se passe en lui les mêmes choses? Que la servitude et la bassesse fassent comme le fond de son âme, et que les meilleures parties de cette âme soient précisément celles qui subissent le joug, tandis qu'une petite minorité y domine, formée de la partie la plus méchante et la plus furieuse. Oui, cela doit être. Que diras-tu d'une âme en cet état? Qu'elle est libre ou esclave? Je dis qu'elle est esclave. Mais un état esclave et dominé par un tyran ne fait point ce qu'il veut. Non, certainement. Ainsi, à l'examiner à fond, une âme tyrannisée ne fera pas non plus ce qu'elle veut, mais, sans cesse et violemment agitée par la passion, elle sera pleine de troubles et de repentir. Sans doute. L'état où règne le tyran est-il nécessairement riche ou pauvre? Il est pauvre. Une âme tyrannisée est donc aussi nécessairement toujours pauvre et jamais rassasiée. Oui. N'est-ce pas encore une nécessité que cet état et cet individu soient dans des frayeurs continuelles? Assurément, Socrate. Crois-tu qu'on puisse trouver plus de plaintes, plus de sanglots, plus de gémissements et de douleurs amères dans quelque autre état? Non. Ou dans quelque autre individu, plus que dans cet homme tyrannique que l'amour et tous les autres désirs rendent furieux? Je ne le crois pas. Or, c'est en jetant les yeux sur tous ces maux et sur d'autres encore que tu as jugé que cet état était le plus malheureux de tous les états. N'ai-je pas eu raison? Oui, mais que dis-tu maintenant de l'homme tyrannique sous le même point de vue? Je dis que c'est le plus malheureux de tous les hommes. Cette réponse n'est plus aussi vraie. Pourquoi? Selon moi, il n'est pas encore aussi malheureux qu'on peut l'être. Qui le sera donc? Tu trouveras peut-être celui-ci plus malheureux. Lequel, Socrate? Celui qui, né tyrannique, ne passe point sa vie dans une condition privée, mais qui est assez malheureux pour qu'un hasard funeste fasse de lui le tyran d'un état. Sur ce que nous avons dit, je conjecture que tu as raison, Socrate. Cela peut être, mais dans une matière de cette importance, où il ne s'agit de rien moins que d'examiner d'où dépend le bonheur et le malheur de la vie, il ne faut pas s'arrêter à des conjectures, mais procéder rigoureusement, comme je vais tâcher de le faire. Fort bien. Vois si je raisonne juste. Pour bien juger de la condition du tyran, il faut, je crois, l'envisager de cette manière. De quelle manière, Socrate? Il faut envisager le tyran comme un de ces riches particuliers qui ont beaucoup d'esclaves. Ils ont cela de commun avec lui qu'ils commandent à beaucoup de monde. Toute la différence n'est que dans le nombre. Cela est vrai. Tu sais que ces particuliers vivent tranquilles et ne craignent rien de la part de leurs esclaves. Qu'en auraient-ils à craindre? Rien, mais en vois-tu la raison? Oui, c'est que l'État tout entier prête assistance à chaque citoyen. À merveille! Mais si quelque dieu, enlevant du sein de la cité un de ces hommes qui ont à leur service 50 esclaves et davantage, avec sa femme et ses enfants, le transportait, ainsi que son bien et toute sa maison, dans un désert, où il n'aurait de secours à attendre d'aucun homme libre, ne serait-il pas dans une appréhension continuelle de périr de la main de ses esclaves, lui, sa femme et ses enfants? Certainement. Il serait donc réduit à faire sa cour à quelques-uns d'entre eux, à les gagner à force de promesses, à les affranchir sans nécessité. En un mot, à devenir le flatteur de ses esclaves. Sans doute, à moins de périr. Que serait-ce donc si ce même Dieu plaçait autour de sa demeure un grand nombre de gens déterminés à ne pas souffrir qu'aucun homme prétende avoir sur d'autres l'autorité d'un maître, et à punir du dernier supplice tous ceux qu'il surprendrait en pareil cas. Environné de toutes parts de tant d'ennemis, il se trouverait plus que jamais dans une situation déplorable. N'est-ce pas dans une semblable prison qu'est enchaîné le tyran, avec les craintes et les désirs de toute espèce auxquels il est en proie, tel, enfin, que nous l'avons dépeint? Tout avide que soit son âme de jouissance nouvelle, seul de tous les citoyens, il ne peut ni voyager nulle part, ni aller voir mille choses qui excitent la curiosité de tout le monde. Presque toujours enfermé dans sa demeure, comme une femme, il porte envie à ses sujets. Lorsqu'il apprend qu'ils font quelques voyages et qu'ils vont voir quelque objet intéressant. Oui, vraiment. Tels sont les maux qui viennent accroître les souffrances de l'homme dont l'âme est mal gouvernée, et que tu as jugé le plus malheureux des hommes. Lorsque le sort l'arrache à la vie privée et l'élève à la condition de tyran. Infortuné, incapable de se conduire lui-même, et qui aurait à conduire les autres, semblable à un malade qui, ne pouvant rien pour lui-même, au lieu de ne songer qu'à sa propre santé, serait contraint de passer sa vie à combattre comme un athlète. Tu as raison, Socrate, et la comparaison est frappante. Eh bien, mon cher Glaucon, une telle situation n'est-elle pas la plus triste qu'on puisse imaginer, et la condition de tyran ne rend-elle pas encore plus malheureux celui qui, selon toi, était déjà le plus malheureux des hommes? J'en conviens. Ainsi, en réalité, et quelle que soit l'apparence, le véritable tyran est un véritable esclave, un esclave condamné à la plus dure et à la plus basse servitude, et le flatteur des hommes les plus méchants. Loin de pouvoir rassasier ses désirs, il manque presque de tout, et il est vraiment pauvre. Pour qui sait voir dans le fond de son âme, il passe sa vie avec une frayeur continuelle, en proie aux chagrins et aux angoisses. Tel est cet homme, s'il est vrai que sa condition ressemble à celle de l'état dont il est le maître. Or, elle y ressemble, n'est-ce pas? Oui, Socrate. Ajoutons à tout cela ce que nous avons déjà dit, que le pouvoir suprême le rend chaque jour nécessairement plus envieux, plus perfide, plus injuste, plus impie, plus disposé à loger et à nourrir tous les vices, que, par toutes ces raisons, il est le plus malheureux de tous les hommes, et qu'ensuite, il rend semblable à lui ceux qui l'approchent. Oui, Socrate, nul homme de bon sens ne te contredira. Allons, et comme le juge d'un concours détermine le premier rang, le second, et ainsi de suite, par rapport au bonheur, entre ces cinq caractères, le royal, le timocratique, l'oligarchique, le démocratique, le tyrannique. Le jugement est facile à prononcer. Je les range comme les cœurs, dans leur ordre d'entrée en scène, par rapport à la vertu et au vice, au bonheur et à son contraire. Veux-tu que nous fassions venir un héros, ou que je publie moi-même à haute voix que le fils d'Ariston a prononcé ce jugement que le plus heureux des hommes, c'est le plus juste et le plus vertueux, celui dont l'âme est la plus royale et qui règne sur lui-même, et que le plus malheureux est le plus injuste et le plus méchant, c'est-à-dire celui qui, étant du caractère le plus tyrannique, exerce sur lui-même et sur l'État tout entier la plus absolue tyrannie?
je te permets de le publier. Ajouterai-je dans cette proclamation qu'ils soient connus pour ce qu'ils sont, ou qu'ils ne le soient de personne au monde, homme ni Dieu. Tu peux l'ajouter. Ainsi, voilà une première démonstration trouvée. Celle-ci sera la seconde, si elle te convient.
Laquelle, Socrate ?